Montpellier Agglo, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Bienvenue dans la version sonore de votre magazine Montpellier Agglo, numéro 19 du mois de janvier 2014.
À la une de votre magazine, une photographie, 7 employés d'une boulangerie posent tout sourire devant l'objectif du photographe. Plusieurs d'entre eux portent dans leurs mains baguettes, pains, gâteaux et viennoiseries. Le cliché illustre le titre de la une, économie sociale et solidaire, entreprendre autrement, à retrouver dans votre dossier.
Le sommaire de votre magazine Montpellier Agglo.
Vue sur le web.
CD1, plage 3.
Passe Agglo, solidarité, donne ton soutien-gorge pour le cancer du sein.
CD1, plage 4.
L'Agglo à chaud, la truffe en fête à Saint-Geniès-des-Mourgues, hommage à Nelson Mandela.
CD1, plage 5.
Débat et des idéaux, les jeux vidéo sont-ils sexistes?
CD1, plage 6.
Événement, Open Sud de France qui succédera à Gasquet.
CD1, plage 7.
Décision d'Agglo, budget 2014 au service du développement territorial.
CD1, plage 8.
Portfolio, mon Agglo en photo, François-Henri Désérable, hockeyeur écrivain.
CD1, plage 9.
Lien d'Agglo, des pros s'invitent à leur entraînement.
CD1, plage 10.
Souffle d'Agglo, les despoufs font leur show.
CD1, plage 11.
Attractive Agglo, les nomades du coworking.
CD1, plage 12.
L'Agglo en scène, l'égalité femmes-hommes au programme des lycées, les vertus pédagogiques du hip-hop.
CD1, plage 13.
L'envers de l'Agglo, sur la route avec le GIHP.
CD2, plage 1.
Figure d'Agglo, Didier Cotte, le microscope tout un art.
CD2, plage 2.
Dossier, économie sociale et solidaire, entreprendre autrement.
CD2, plage 3.
Les enfants de l'Agglo, cuisine, les enfants mettent la main à la pâte.
CD2, plage 4.
L'Agglo, c'est nous.
CD2, plage 5.
Balade Agglo, le renouveau de Castelnau-le-Lez.
CD2, plage 6.
Plaisir d'Agglo.
CD2, plage 7.
Le goût de l'Agglo, péné, tomate et thon.
CD2, plage 8. En période préélectorale, l'éditorial du président de Montpellier Agglomération est suspendu et laisse la place à Vue sur le web. Dans cette nouvelle rubrique, suivez chaque mois l'actualité de Montpellier Agglomération sur ses sites et ses pages Facebook.
Le j'aime du mois. 172 personnes ont liké le cœur géant réalisé le 10 décembre dernier par les agents de l'agglomération dans le cadre de l'opération Mon Agglo a du cœur, une grande chaîne de solidarité mise en place par Montpellier Agglomération jusqu'au 10 janvier en direction des familles en difficulté. Pour participer à la grande collecte organisée par Montpellier Agglomération avec les associations Les Bébés du Cœur et À Cœur Ouvert, rendez-vous dans les maisons de l'agglomération, à la médiathèque centrale Émile Zola et à la piscine olympique Antigone pour y déposer des produits d'hygiène, des gants, des écharpes, des bonnets et des couvertures pour adultes et enfants.
Les e-services simplifient les démarches administratives. Depuis septembre dernier, Montpellier Agglomération propose 20 téléformulaires sur sa plateforme e-service. Ils permettent aux habitants de la collectivité d'accomplir certaines démarches à distance depuis leur domicile 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Ces outils ont déjà été sollicités près de 800 fois depuis leur lancement afin d'obtenir par exemple un composteur, un bac roulant, postuler à des offres d'emploi ou encore abonner un proche à la téléalarme. Plus de renseignements sur compte-citoyen.montpellier-agglo.com.
277 457, c'est le nombre de vidéos visionnées sur la chaîne YouTube de Montpellier Agglomération. Cette plateforme, lancée en septembre 2010, permet aux internautes de voir ou revoir toutes les vidéos publiées sur montpellier-agglo.com, telles que les conseils d'agglomération, les conférences du dernier forum Libération au Quorum, ou les performances des graffeurs Zest, Mist et Johnny Style lors de la foire de Montpellier. À voir donc sur youtube.com/agglomontpellier.
Rubrique Passe Agglo. Solidarité, donne ton soutien-gorge pour le cancer du sein. Les maisons de l'agglomération s'associent à l'opération « Donne ton soutien-gorge » organisée par le CHRU de Montpellier et l'association Femmes Victoire Esthétique. Ce geste symbolique vise à sensibiliser le public sur le cancer du sein et l'importance du dépistage. Ce cancer est le plus fréquent chez la femme en France avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Cette collecte, mise en place jusqu'au 30 mars, permet également de récolter des fonds pour financer l'acquisition d'appareils dits de dermopigmentation médicale, un dispositif destiné à compléter la reconstruction mammaire chirurgicale. Et retrouvez plus d'infos sur femmes-victoire-esthétique.org.
Salon Cuisine Créative à Creativa. Du 23 au 26 janvier, le salon Creativa Montpellier, dédié aux passionnés de loisirs créatifs, est de retour pour une 12e édition au Parc des Expositions de Montpellier. Trois univers seront à l'honneur, l'art du fil, les loisirs créatifs et la cuisine créative. Des ateliers et des démonstrations seront notamment proposés aux visiteurs afin de réaliser toutes sortes de gourmandises. Préinscription sur creavenue.com/creativa/montpellier-conseiller. Tarif préférentiel avec le pass aglo, 5 euros au lieu de 7.
Maison de l'agglomération, les animations de janvier. Castries, mercredi 15 janvier à 15h, il était une fois à la maison de l'agglo, blind test sur le thème des dessins animés pour les enfants, gratuit.
Pignan, du 18 janvier au 8 février, feu d'artifice de vitraux et de céramique, exposition de mosaïques de Fadila Benchaban et Edwige Chevreau, vernissage le 17 janvier à 18h30, gratuit.
Montpellier Centre, mardi 28 janvier à 18h30, claquettes en vogue, démonstration de claquettes par l'association Claquettes en vogue, atelier d'initiation jeudi 30 janvier, gratuit.
Et retrouvez toutes les informations dans la rubrique Passe Aglo sur montpellier-aglo.com.
La rubrique « Débats et des idéaux » de votre magazine Montpellier Aglo du mois de janvier 2014 a pour titre « Les jeux vidéo sont-ils sexistes ?»
La question agite le milieu geek depuis un article de la blogueuse Marlar, http://safaitgenre.org/author/marlar, repris dans l'émission « Arrêt sur image ». Le sexisme dans les jeux vidéo faisait l'objet d'un débat organisé par la médiathèque Émile Zola à l'occasion de son opération L'Aglo en jeu en partenariat avec le magazine Canard PC. Débat avec Sophie Peuzeux, cofondatrice et directrice d'Okugi Studio, vice-présidente de PixLR, Laura Amand, présidente de Pink Ward qui défend la mixité dans le e-sport, et Anaïs Dussautois, animatrice 2D-3D chez Ubisoft Montpellier. Quelle part représente le public féminin ?
Anaïs Dussautois. Aujourd'hui, 50% des gamers sont des gameuses. La Wii a démocratisé le jeu en le rendant plus instinctif. La console s'est ouverte à l'environnement familial, aux grands-parents et aux femmes. Le public n'est plus seulement constitué de garçons de 15 ans. Sophie Peuzeux. Les créateurs de jeux se sont adaptés. Le smartphone offre une grande facilité d'appréhension, c'est un objet personnel entre toutes les mains. Avant, en attendant chez le docteur, on lisait des revues People. Maintenant, on joue à Candy Crush Saga. Le jeu est hyper basique et il cartonne.
Y a-t-il des jeux pour filles et pour garçons ?
Sophie Peuzeux. Il y a des jeux très ciblés filles, où on brosse et nourrit des chiens. On suppose aussi que les filles préfèrent les jeux de socialisation, alors que les garçons préfèrent les jeux de compétition. Je crois que si les femmes sont moins sujettes à passer 5 heures par jour sur un PC, c'est parce qu'elles assurent encore l'essentiel des tâches ménagères et familiales. Anaïs Dussautois. Je ne vois pas de différence entre hommes et femmes, mais plutôt entre grand public et gamers avertis, jeux légers et hardcore. Certaines filles jouent 5 heures par jour et personnellement j'adore les jeux d'aventure et de combat type Assassin's Creed. C'est plus une question d'orientation que de genre. Quand on développe un jeu sur PC, on sait qu'on a une majorité de garçons de plus de 18 ans, mais on ne se dit pas qu'on le fait pour des filles ou des garçons.
Que pensez-vous de la représentation de la femme dans les jeux vidéo ?
Laura Amand. Ils sont très stéréotypés. Dans League of Legends, le jeu multijoueur en ligne le plus joué dans le monde, on a des hommes très musclés et des bimbos à forte poitrine souvent un peu dénudés. Sophie Peuzeux. Dans l'industrie du jeu vidéo, on retrouve soit la bimbo Rambo du type Lara Croft, qui n'a rien de féminin à part son apparence, soit la princesse à sauver, la demoiselle en détresse. Ça ne fait pas beaucoup de modèles pour s'identifier. Anaïs Dussautoy. Je ne comprends pas la nécessité de faire un bonnet 90E pour le combat, mais bon, ça plaît aux garçons qui peuvent choisir un personnage féminin pour jouer tout comme moi. Personnellement, quand j'anime un personnage, je dégage un caractère, pas un genre. Par exemple, Rayman est un personnage de cartoon pas vraiment sexué, même s'il peut paraître assuré, donc masculin. Dans Rayman Legends, on a ajouté une petite guerrière botteuse de fesses en pensant que les jeunes joueuses pourraient s'y identifier et j'ai trouvé ça très bien. Elle prend parfois des poses un peu girly, mais c'est quand même un garçon manqué.
Dans le jeu, les gameuses réussissent-elles à s'imposer ?
Laura Amand. Les jeux multijoueurs du type League of Legends font l'objet de compétitions e-sport. Il est curieux de voir qu'on y a maintenu des tournois féminins et masculins alors que la différence physique est abolie. Dans Warcraft ou Counter-Strike, il y a des tournois féminins mais pas dans League of Legends, alors que c'est le jeu le plus joué par les femmes. J'ai donc créé une association pour imposer la mixité. À mon niveau amateur, j'ai créé un tournoi où les équipes sont obligatoirement mixtes et je compte le développer au niveau semi-professionnel. Sophie Peuzeux. Quand je joue à des jeux de stratégie ou de gestion sur des serveurs internationaux, j'ai pour avatar un gros barbu parce que je suis chef de guilde, équipe, et ça passe mieux pour commander. Comme on dit souvent sur Internet, les hommes sont des hommes, les femmes sont des hommes et les enfants sont des agents du FBI sous couverture.
Peut-il y avoir du harcèlement en ligne comme l'a récemment dénoncé la blogueuse Marlar ?
Sophie Peuzeux. Oui, on peut être l'objet de propos grossiers, et si je me fais passer pour un homme, c'est aussi pour être tranquille. Laura Amand. Les jeux sont le reflet de la société, il y a une minorité bruyante qui insulte et harcèle, mais ce n'est pas une majorité.
Et dans le milieu professionnel ?
Anaïs Dussautoy. Dans ma boîte, on était 2 filles il y a 3 ans, on est 6 aujourd'hui. Il n'y a pas de différence de salaire. Le studio veut plus de mixité, mais il a du mal à recruter car il y a très peu de filles qui sortent des écoles d'ingénieurs. Sophie Peuzeux. Je n'ai pas senti de sexisme dans mon milieu professionnel. La moyenne d'âge est jeune, les garçons sont habitués à travailler sous la responsabilité d'une femme et considèrent l'égalité salariale comme normale. Mais nous sommes encore peu nombreuses, 5 à 10% je dirais, essentiellement dans la partie graphique.
Et retrouvez le film de la conférence sur mediatech.montpellier-aglo.com.
Rubrique événement de l'agglo. Open Sud de France, qui succédera à Richard Gasquet ? Du 1er au 9 février 2014, l'Open Sud de France accueillera de grands noms du tennis mondial. Sur les courts de la Park & Suite Arena, se jouera la succession du tenant du titre, Richard Gasquet, numéro 9 mondial, qui a signé l'an dernier une saison exceptionnelle.
Avec des têtes d'affiche comme les Français Richard Gasquet, numéro 9 mondial, Gaël Monfils, numéro 31 mondial, vainqueur en 2010, Benoît Paire, numéro 26 mondial, et le Suisse Stanislas Wawrinka, numéro 8 mondial, la 4e édition de l'Open Sud de France s'annonce alléchante. Au total, 60 joueurs participeront à cette compétition. Patrice Dominguez, directeur du tournoi, est fier de son plateau digne des plus grands tournois ATP. L'accueil, les 4 courts de la Park & Suite Arena et du Parc des Expositions, les conditions de jeu, le tramway à proximité jouent en faveur de ce grand rendez-vous montpelliérain qui attire plus de 40 000 spectateurs, retransmis sur Canal Plus Sport. Aujourd'hui en indoor en France, on ne peut pas rêver mieux, juge-t-il.
Outre ce beau plateau, l'édition 2014 réserve de nombreuses surprises. Ainsi, le lundi 3 février sera marqué par la participation exceptionnelle du célèbre DJ français Bob Sinclair. Le roi des platines sera aux côtés des joueurs de l'Open Sud de France pour un match d'exhibition, puis donnera un concert unique au milieu de la Park & Suite Arena.
Principal partenaire des clubs sportifs de haut niveau, Montpellier Agglomération se mobilise pour cet événement international organisé par Canal Plus Events. En amont de la manifestation, une opération spéciale est organisée avec le comité de tennis de l'Hérault. Ainsi, les 38 clubs de l'agglomération sont invités à participer à un tirage au sort pour gagner des places et une journée avec un joueur du tournoi. Les détenteurs de la carte Passaglo ont également l'occasion de jouer le jeu avec l'aglo pour emporter des packs de 2 places et le privilège de passer une journée avec une tête de série de l'Open Sud de France. pendant les 9 jours de la compétition, de nombreuses animations seront proposées sur le stand de la collectivité où défilent les grandes équipes de l'agglomération pour des séances de dédicaces. Enfants et adultes pourront aussi tester leur niveau de tennis virtuel sur des jeux vidéo où ils vivront toute l'excitation et l'émotion d'un champion de tennis.
À noter, tête d'affiche du top 10 mondial, Stanislas Wawrinka, nationalité suisse, classement fin 2013, 8e. Meilleur classement, 8e. 4 titres et 9 finales. Meilleure performance en Grand Chelem, demi-finale US Open 2013. Richard Gasquet, nationalité français, classement fin 2013, 9e. Meilleur classement, 7e, le 9 juillet 2007. 10 titres et 10 finales. Meilleure performance en Grand Chelem, demi-finale Wimbledon 2007, US Open 2013.
Open Sud de France, c'est du 1er au 9 février à la Park & Suite Arena à Pérols, ligne 3 de tramway, arrêt Parc Expo. Place de 9 à 70 euros, tarif réduit avec le pass aglo, en vente dans les maisons de l'agglomération et sur opensuddefrance.com.
Décision d'aglo. Budget 2014 au service du développement territorial. Malgré un contexte économique contraignant, Montpellier Agglomération a choisi de maintenir son action au quotidien et de programmer des investissements en hausse de 28% par rapport à 2013. 862,5 millions d'euros de budget seront mobilisés pour assurer les principales priorités de la collectivité, fournir des services publics de qualité, contribuer au développement économique du territoire et favoriser l'accès à l'emploi.
Avec la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l'eau et de l'assainissement, des transports ainsi que la mise à disposition d'une offre culturelle et sportive accessible à tous, Montpellier Agglomération assure des services indispensables au quotidien de ses 420 000 habitants. Confrontée à une baisse des dotations de l'État et à des contraintes budgétaires toujours plus nombreuses, la collectivité peut s'appuyer sur des finances solides, des dépenses maîtrisées et une capacité d'autofinancement parmi les plus importantes pour les collectivités en France. Cette année encore, Montpellier Agglomération a choisi de ne pas augmenter les différents taux d'imposition sur les ménages et les entreprises. Réduction des dépenses, réponse à la demande sociale, bataille pour l'emploi et renforcement de la solidarité sont les maîtres mots de 2014.
Maintenir un haut niveau d'investissement est essentiel pour soutenir l'économie et l'emploi local. À cet effet, Montpellier Agglomération consacre cette année 183 millions d'euros à des projets ambitieux afin de répondre aux besoins de la population et de l'ensemble des acteurs du territoire. Des investissements en hausse de 28% par rapport à 2013. Dans le cadre du nouveau programme local de l'habitat PLH 2013-2018, les subventions accordées aux bailleurs sociaux sont notamment doublées afin de contribuer à la construction de logements accessibles et adaptés à tous. La collectivité s'engage également sur l'avenir en débutant le chantier des grandes infrastructures de transport, comme la ligne 5, le contournement Nîmes-Montpellier et les quartiers Auze et Aude-Montpellier Nature Urbaine. Des projets d'avenir au sein desquels la préoccupation environnementale est omniprésente, qui insuffleront le dynamisme indispensable au territoire et constitueront un véritable levier pour l'économie locale et l'emploi.
D'où vient l'argent ? Recettes de fonctionnement et d'investissement. 27,28%, impôts entreprises, dont cotisations foncières des entreprises, cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, taxes sur les surfaces commerciales et versements transport, taxes d'enlèvement des ordures ménagères. 17,87%, impôts ménages, dont taxes d'habitation, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, taxes sur le foncier non bâti, taxes sur le foncier bâti. 11,53%, dotations de l'État, dont DGF, dotation globale de décentralisation, compensations diverses. 15,76%, emprunt. 11,03%, épargne. 16,48% autres, dont recettes propres, réaménagement de dettes et autres produits de fonctionnement.
Où va l'argent ? Dépenses de fonctionnement et d'investissement par grand domaine d'action. 19,93% aux transports urbains. 18,56% au développement économique, urbanisme, logement. 0,97% aux services funéraires. 16,19% à la collecte et au traitement des déchets. 7,67% au sport et jeunesse. 2,85% à la salubrité et à la sécurité publique. 12,86% à la culture. 2,04% à l'enseignement formation. 5,43% à l'administration générale et 13,57% à l'eau et l'assainissement.
Et retrouvez les vidéos des conseils du 27 novembre et du 19 décembre sur montpellier-aglo.com.
Les pages Portfolio, Mon agglo en photo sont consacrées à François-Henri Désérable, que l'on suit au fil des photos, enfant tout d'abord en tenue de hockeyeur, casque sur la tête, adulte ensuite dans le vestiaire des Vipers, maillot sur le dos, mais également dans une librairie, jouant aux échecs sur la terrasse du Rebuffy Pub, devant les rayons de la médiathèque Émile Zola. Autre photographie, celle des Vipers affrontant sur la glace de Vegapolis l'équipe de Dunkerque, de l'écrivain montpelliérain Jean-Baptiste Delamo, de la promenade du Pérou et d'un buste de Danton.
François-Henri Désérable, hockeyeur écrivain, né le 6 février 1987 à Amiens. Avec un père joueur, entraîneur et président du club de hockey sur glace d'Amiens, François-Henri Désérable est né une crosse à la main. Passionné, il en fait depuis l'âge de 20 ans sa profession. En 2012, ce défenseur était recruté par les Vipers du Montpellier Agglomération Hockey Club. Quand il n'est pas sur la glace de Vegapolis, ce sportif étonnant se consacre à la lecture et à l'écriture. À Montpellier, il a mis en sommeil sa thèse de doctorat en droit pour écrire « Tu montreras ma tête au peuple », un roman historique sur les derniers instants des grandes figures de la Révolution française. Quand Gallimard m'a appelé pour publier mon livre, j'ai failli verser une larme. « Je ne rêvais que d'eux », confie cet érudit d'histoire et de littérature française. Son premier ouvrage a déjà remporté 3 prix et reçoit les éloges d'écrivains qu'il admire, comme le prix Goncourt Jean-Christophe Ruffin. À 26 ans, le numéro 25 des Vipers prépare pour la rentrée littéraire un livre sur Évariste Galois, le Rimbaud des mathématiques.
Quand je fais un choix de carrière, c'est pour le club de hockey, mais aussi pour la ville. Avec Montpellier, je n'ai pas hésité. Je suis très sensible à son architecture et j'y ai pris goût au soleil.
Cette saison est compliquée avec les Vipers. On se bat pour le maintien de l'équipe en Division 1.
Le hockey me prend 4 heures par jour et les week-ends. Le reste de mon temps est consacré essentiellement à lire et à écrire. Ma vie pourrait être contenue tout entière dans ces 2 verbes.
Mes sorties sont rares. J'aime aller au Rebuffy Pub pour jouer aux échecs en buvant quelques bières avec mon coéquipier suédois Einar Engström.
Parmi les écrivains que j'admire, il y a le montpelliérain Jean-Baptiste Delamo. En 2008, son livre « Une éducation libertine » chez Gallimard a connu un succès phénoménal.
Je lis près d'un livre par jour, souvent, en saison, sur un banc de la promenade du Pérou, en prenant le soleil.
Nous avons remporté à Vegapolis, fin novembre, une très belle victoire après prolongation contre Dunkerque, un des meilleurs clubs du championnat.
Je me perds dans les méandres des rayons de la médiathèque Émile Zola. Je viens pour un ouvrage précis et souvent je repars avec d'autres titres découverts sur place.
Je pourrais pendant des heures vous raconter l'histoire de chacune des têtes exposées place de la Révolution à Montpellier. J'ai emprunté à Danton le titre de mon livre « Tu montreras ma tête au peuple ».
Et retrouvez les confidences de François-Henri Désérable dans la rubrique « Mon aglomag » sur montpellier-aglo.com.
Rubrique « Lien d'aglo ». Des pros s'invitent à leur entraînement. Très attaché aux valeurs familiales et humaines, le Montpellier Aérosport Club, MHSC, multiplie depuis 2010 les actions sociales sur et en dehors des terrains. Afin de renforcer son engagement, le club montpelliérain a lancé cette saison un fonds de dotation baptisé « Espoir Orange et Rêve Bleu ». Gros plan sur l'opération, mercredi, c'est coach MHSC qui t'entraîne sur le terrain du RC Le Maçon.
Après de longs jours d'attente, le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé. Sur le terrain du stade Bernard Giambrone du quartier Le Maçon de Montpellier, de jeunes footballeurs en herbe sont en train de réaliser un de leurs rêves. Ils s'entraînent avec Victor Hugo Montagno et Vincent Di Stefano, respectivement attaquant et défenseur du MHSC. Impressionnés au départ, les enfants reprennent vite leur naturel, très fiers d'évoluer aux côtés de vrais professionnels.
Slalom, exercice de conduite de balle, tir au but, les deux joueurs du MHSC se sont prêtés au jeu le temps d'une heure pour le plus grand bonheur de ces enfants âgés de 7 à 8 ans. Ce sont des modèles pour nos jeunes. Ils sont là pour leur montrer que professionnel ou amateur, il faut être exemplaire dans tous les cas, explique Sébastien Cross, président du RC Le Maçon. Un entraînement pas comme les autres qui offre aux jeunes de l'école de foot du club amateur des moments de joie et de nombreux souvenirs. Cette opération menée par le MHSC va se répéter tout au long de la saison. Au total, 12 clubs de l'agglomération seront visités par les joueurs de l'équipe professionnelle. Prochain rendez-vous le 29 janvier.
Chaque année, le club montpelliérain met en place des actions en faveur de la lutte contre le handicap, l'intégration des femmes, le sport amateur et l'intégration sociale. Depuis 2010, grâce à Espoir Orange et Rêve Bleu, 1000 enfants des écoles de l'agglomération ont partagé une après-midi avec les joueurs de l'équipe première. En septembre dernier, l'association France Alzheimer s'est vue remettre un chèque de 3000 euros pour l'aide qu'elle apporte aux patients atteints par cette maladie. Notre club est sensible aux enjeux du quotidien. Et si le football se joue avec les pieds, cela n'empêche pas de tendre la main à ceux que la vie a mis hors jeu et de faire partager les valeurs qui animent le club depuis près de 40 ans, assure Laurent Nicolin, président délégué du MHSC. Plus habitué à évoluer sur la pelouse du stade de la Mausson, le club est également de plus en plus présent sur le terrain social.
Plus d'infos, pour découvrir et soutenir les actions de Espoir Orange et Rêve Bleu, rendez-vous sur espoirorange.mhscfoot.com.
Rubrique Souffle d'agglo. Les despoufs font leur show. Perchés sur des patins, les despoufs et les camiquads du Montpellier Derby Club sont les dignes représentants d'un sport-spectacle importé des États-Unis qui explose en France, le roller derby. Une discipline physique et très réglementée à découvrir dimanche 5 janvier au complexe Albert Batteux.
The Meat Grinder, numéro 21, 27 ans, responsable de recrutement. La Guêpe, numéro 11, 37 ans, chef d'entreprise. Ephédrine DeGR, 32 ans, infirmière. Buck Labaston, numéro 77, 22 ans, étudiant. Ils sont 70 licenciés de la Fédération française de roller sport, tous d'horizons différents, à chausser des quads, patins à 4 roues, 4 soirs par semaine sur le plateau sportif Alain Colas, dans le quartier Croix-d'Argent, et au gymnase Brassens à Lattes. Les despoufs et les camiquads du Montpellier Derby Club ont en commun la passion du roller derby, autre club dans l'agglo, hero-derby-girls.fr.
Il y a 3 ans, les despoufs, un nom d'équipe inspiré d'un film de Tarantino, créent un des premiers clubs de cette discipline. Ce sport collectif se joue entre 2 équipes de 14 sur une piste ovale de 300 mètres carrés en demi-temps de 30 minutes pendant lesquelles les jammeuses, les attaquantes de chaque équipe, tentent de dépasser les bloqueuses adverses pour marquer des points. Protégées de la tête aux pieds, elles jouent des coudes, des hanches et des épaules pour se frayer un chemin et marquer des points. Au coup de sifflet, on se transforme en guerrière. On laisse nos complexes et nos différences sociales au vestiaire, explique Sandrine Pérez, présidente du club. Il y a tout un rituel, présentation de chacune des filles sous son nom de derby, musique d'entrée très rock, cri de guerre pour impressionner l'adversaire. Entre chaud et défouloir, ce sport est exigeant. C'est intense physiquement, il faut être très sportive, passer des niveaux pour mériter sa place dans les matchs, ça s'acquiert progressivement. On apprend à patiner, à freiner, à chuter, à bloquer, à donner des coups dans les règles.
Sport de contact régi par un règlement de 50 pages, chaque rencontre officielle nécessite la présence d'une quinzaine d'arbitres. Dans ce petit monde, l'entraide entre clubs et joueuses est naturelle. Quand on se déplace par exemple, on dort chez l'adversaire. Il y a une solidarité et mixité entre nous. Chacune trouve sa place et s'investit pour faire grandir notre sport, précise la présidente. Sport exclusivement féminin au départ, les coachs et arbitres des despoufs ont créé il y a 2 ans leur équipe masculine baptisée organisés les Kamiquads, tout un programme. Aujourd'hui, le MDC est plus compétitif et sportif que jamais, tout en s'inscrivant dans une démarche de coaching collaboratif. Pour plonger dans cet univers du roller derby, rendez-vous dimanche 5 janvier de 11h à 18h au complexe Albert Batteux pour deux rencontres internationales face aux Blackland Rocking Car Rollers de Belgique et aux Heads Roller Boys d'Écosse.
Et retrouvez les Despoufs en piste sur montpellier-derby-club.fr.
Attractive Aglo, les nomades du coworking. Nés avec les métiers du web et le télétravail, les espaces de coworking allient la liberté de l'indépendant et la sociabilité de l'entreprise. Ils séduisent de plus en plus avec la création de 5 espaces à Montpellier depuis 2012. Un état d'esprit qui se répand aussi dans les pépinières de Montpellier Agglomération.
On les appelle les sans bureau fixe. Travailleurs indépendants, entrepreneurs en création ou télétravailleurs, ils en ont assez de travailler seuls à domicile. Ils se retrouvent donc dans des espaces de coworking, des bureaux partagés qu'ils utilisent selon leurs besoins, sans devoir s'engager sur 3 ans de bail commercial. Aude Chagnon travaille dans le marketing pour une entreprise parisienne depuis Montpellier, où elle a emménagé il y a 3 mois. Elle vient 3 jours par semaine au coworking. « Je sors de chez moi, je parle avec des êtres humains, bref, je vais au travail », explique-t-elle. Pour 110 euros par mois, elle a accès à un bureau en open space, avec téléphone, imprimante et wifi, mais aussi une cuisine, une terrasse, une salle de réunion et une salle détente commune. Pour elle, comme pour les 3 télétravailleurs présents ce jour-là, ce sont les employeurs qui paient. Le mien y trouve son intérêt, car je développe des contacts à Montpellier, explique l'un d'entre eux, qui travaille 3 jours dans un domaine viticole à Béziers et 2 jours en télétravail. Les autres usagers sont des indépendants des métiers du web, de la communication, du marketing ou du design.
Le prix a été calculé au plus bas par les 6 cofondateurs du lieu réunis en association. Notre but n'est pas de faire de l'argent, mais de mutualiser et d'échanger. Des projets collaboratifs peuvent émerger, explique le président Thibaut Dussert. Souplesse, liberté, partage, convivialité, ces valeurs rassemblent les coworkers signataires d'une charte. À Montpellier, on compte 5 lieux de coworking répondant à différentes catégories de besoins. Pionnière en 2011, la fabrique se situe à un niveau intermédiaire, 275 euros par mois, avec une imprimante professionnelle et une ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À la tête d'un centre de formation, sa fondatrice Anne de Carpentrie a d'abord loué sa salle de réunion ponctuellement à des entreprises clientes. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes en démarrage d'activité qui n'ont pas assez de visibilité pour prendre des locaux, explique-t-elle. De son côté, Quai13 regroupe des professionnels de l'architecture et du design comme Vincent Sillard, agent d'illustrateur, récemment arrivé de Paris, qui avait besoin de se plonger dans les milieux créatifs. Coswos, nouveau venu, complète le tableau.
Plus haut de gamme, le MIO, My Incubation Office, impressionne par ses bureaux très design rue Maglone. C'est une bonne vitrine pour des personnes qui souhaitent développer leurs affaires à Montpellier, sur un axe dynamique entre la gare, l'opéra, le musée Fabre et le Corum, explique Jacques Host. Directeur d'une agence de communication, il y accueille des conférences de presse, des expositions ou des tournages vidéo en fonction des affinités et des projets de ses hôtes avec qui il collabore souvent. Tous ses coworkers ont un point commun, le partage du lieu s'accompagne d'échanges, voire de collaborations. Un état d'esprit que Montpellier Agglomération cultive aussi dans les espaces de travail partagés des pépinières de Cap Alpha et Cap Omega et à la maison du numérique animée par Nova et LR, où se retrouvent régulièrement les professionnels du secteur numérique.
Mutualisation, au Lab Sud, on partage machines et savoir. Depuis 2014, le Lab Sud s'installe à l'hôtel d'entreprise du Millénaire dans un espace de 270 mètres carrés prêté par Montpellier Agglomération. Créé l'an passé par un ingénieur en électronique, Jean-Philippe Sivade, le Lab Sud s'inspire des Fab Labs américains qui mettent à disposition de tous des machines-outils permettant de créer n'importe quel prototype. Le Lab Sud compte déjà 110 membres qui viennent y fabriquer eux-mêmes un robot, une caméra spéléo ou un scanner. Ils partagent leurs connaissances et peuvent se servir des machines de l'association. Découpe laser, fraiseuse, imprimante 3D, matériel électronique, explique Jean-Philippe Sivade. L'association prend aujourd'hui une nouvelle dimension en s'ouvrant à un public d'entrepreneurs. Des chercheurs, des PME et le groupe Dell ont déjà manifesté leur intérêt pour ce Fab Lab qui leur donnera à la fois un soutien technique et un accès à des machines coûteuses, explique le vice-président de Montpellier Agglomération, délégué au développement économique. Le Lab Sud mènera également des actions pour le grand public, comme il le fait actuellement avec ses ateliers de construction d'imprimantes 3D et pour les scolaires. Et retrouvez plus de renseignements sur labsud.org.
En bref, Tizi, le Shazam de l'image. Installé sur votre mobile, Tizi permet d'accéder à des contenus multimédia en flashant une icône que vous trouvez, par exemple, sur votre magazine économique régional. Tizi, qui peut s'appliquer à n'importe quelle image, est développé par la société montpelliéraine Choose It.
L'ampoule musicale Dawox. L'Awox Streamlight est une ampoule LED dotée d'un haut-parleur de 3 watts qui diffuse via Bluetooth les musiques de votre smartphone ou de votre ordinateur. Elle s'installe sur une lampe standard, par exemple sur une table de chevet ou dans une salle de bain. C'est le dernier produit de la société Awox, né à la pépinière Cap Omega.
Grand succès pour Féeric. Le studio montpelliérain Féeric, créateur de jeux en ligne, a fêté le million de parties jouées sur son dernier jeu, Eden Arena, disponible sur mobile, tablette et ordinateur. Le jeu est traduit en 6 langues et joué dans une centaine de pays.
Acheter un bien depuis l'étranger. Après net-acheteur.com, service immobilier en ligne, la start-up Netac lance un service spécifique pour les expatriés français. Sur expat.net-acheteur.com, l'acquéreur peut gérer son projet à distance en lien avec son chargé de mission indépendant, sélection de biens, visite virtuelle, jusqu'à la signature de l'acte.
Rubrique L'Aglo en scène. L'égalité femmes-hommes au programme des lycées. L'exposition Insoumise, combat de femmes d'aujourd'hui, réalisée par Montpellier Agglomération dans le cadre de son action pour l'égalité femmes-hommes, poursuit son parcours itinérant. 8 lycées de l'agglomération, le CRDP et l'École supérieure de commerce de Montpellier ont choisi de la présenter à leurs élèves.
Pour le droit de conduire en Arabie Saoudite, contre la prostitution des mineurs en Roumanie ou encore le mariage des enfants en Inde, les combats des 12 femmes présentées dans l'exposition Insoumise sont les combats de toute une vie. Certaines, comme Sima Samar, première ministre des droits des femmes d'Afghanistan, démissionnée en 2011, sont menacées de mort. D'abord présentée sur la place du XXe siècle à Odysseum, cette exposition a fait l'objet d'un partenariat avec le Centre régional de documentation pédagogique, CRDP, qui fournit des supports pédagogiques aux enseignants de l'Académie de Montpellier. Après le lycée Georges Frêche, le CRDP et le lycée Jules Guède, l'exposition s'est installée en novembre à l'internat d'excellence IDEM. L'IDEM accueille environ 200 élèves motivés mais ne bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études.
Au CDI, rebaptisé ici Curiothèque, la documentaliste Anne Force a pu assister aux présentations des travaux des différentes classes, du CM2 à la terminale. Il y a eu des moments très forts, comme quand cette lycéenne d'origine malienne a présenté le portrait de Mariam Lamizana, qui mène la croisade contre l'excision des filles en Afrique. Les professeurs de philosophie, de français, d'histoire géographie et d'art plastique ont utilisé l'exposition comme support à des réflexions sur l'insoumission et l'égalité. Par exemple, les élèves de 3e l'ont prolongée en cherchant d'autres insoumises contemporaines, comme la petite Malala qui se bat pour la scolarisation des filles au Pakistan, ou Simone Veil qui fit légaliser l'avortement en France en 1975. Les élèves ont découvert des situations qu'ils ne soupçonnaient pas, raconte Anne Force. Présent lors d'une de ces restitutions, le président de Montpellier Agglomération s'est dit touché par l'implication des élèves et des enseignants. Après le lycée Mermoz en janvier, les 12 portraits de femmes insoumises s'installeront dans le hall d'accueil du campus de Subdeco. Caroline Casi, directrice des ressources humaines et de la diversité de l'École supérieure de commerce, estime naturel de l'accueillir, Subdeco portant une attention particulière à l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement, comme dans l'orientation, les filles restant peu nombreuses dans certains domaines comme la finance. Déjà labellisée diversité, Subdeco s'apprête à signer la charte des grandes écoles pour l'égalité homme-femme.
Les vertus pédagogiques du hip-hop. Organisatrice du festival Arabesque en mai, l'association Unisson propose toute l'année des concerts, des ateliers et des rencontres entre artistes et scolaires autour de la culture hip-hop, des actions à haute valeur éducative.
Mi-décembre, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau accueillait le rappeur Médine pour une rencontre avec deux classes du collège Les Escoliers de la Mausson. En concert le soir même au Rockstore, Médine, artiste phare du mouvement du rap conscient, n'a pas été choisi au hasard par l'association Unisson, signataire d'un partenariat avec l'Éducation nationale et les médiathèques de Montpellier Agglomération. Nous choisissons des artistes en phase avec les préoccupations des jeunes, qui défendent des idées fortes, sincères, positives, explique Habib Deshraoui, animateur de ces rencarts et directeur d'Unisson. Sont ainsi passés par là les rappeurs Youssoupha, Kery James, La Rumeur, mais aussi le cinéaste Jean-François Richer, Ma Cité va craquer, ennemi public numéro 1. Pour le conseiller principal d'éducation du collège, Abdou Bagou, préparé en amont, ces rencontres ont un intérêt éducatif en réduisant le fossé entre le rêve véhiculé par les artistes et la réalité de leur orientation. 5 rencarts ont déjà été organisés dans les médiathèques Jean-Jacques Rousseau, Mausson, et William Shakespeare, Cévennes, en partenariat avec Unisson.
Ce vendredi matin, devant son jeune public, Médine se fait éducateur. Des profs m'ont donné envie de lire, mes parents m'ont éduqué, des rappeurs m'ont inspiré. Auteur d'un livre de conversation avec Pascal Boniface, célèbre directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques IRIS, Médine entend briser les clichés à propos des musulmans, des jeunes de banlieue et des personnes issues de l'immigration. Il invite les collégiens à ne pas se laisser enfermer dans des cases, à développer leurs compétences et leur répartie, leur demande de s'informer et d'argumenter avant de juger. Son discours répond à ce qu'ils vivent, s'enthousiasme le CPE, ravi de son témoignage sur son parcours scolaire, mais aussi du message sur les valeurs plutôt que l'argent facile. Après une heure de rencontre, les jeunes se prennent en photo avec le rappeur, un instant de détente après un débat soutenu avant de retourner à leur quotidien de collégien.
Chibani et Chibania. L'association Unisson a été reçue en juin dernier à l'Élysée pour y recevoir le prix de l'audace artistique et culturelle pour un projet impliquant des collégiens et des pensionnaires âgés de foyers de travailleurs immigrés. De là est née une exposition photographique. Après avoir été présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, elle ira à Nantes, puis Toulouse, où de nouveaux portraits seront faits. Elle devrait terminer son parcours à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris.
Rubrique « L'envers de l'aglo » sur la route avec le GIHP. Leurs camions blancs et verts font partie du paysage urbain. Depuis 48 ans, le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques, GIHP, transporte les personnes en fauteuil ou non-voyantes dans l'agglomération de Montpellier. Un service soutenu par Montpellier Agglomération qui fait référence au niveau national très apprécié de ses usagers. Nous avons embarqué avec eux.
8h30 du matin. Guillaume Dumont, 30 ans, chauffeur depuis près d'un an au GIHP, arrive au siège de l'association au Millénaire pour prendre sa feuille de route et son véhicule. Ce matin, il commence par aller chercher Stéphane chez lui à Celle-Neuve et le déposer à Antigone. Aujourd'hui, Stéphane va à la banque, puis faire quelques courses. Il est en fauteuil roulant électrique et utilise le transport adapté 2 à 3 fois par semaine pour aller au cinéma, au musée Fabre ou l'été en bord de mer. « Je ne peux pas sortir seul de chez moi, les chauffeurs viennent jusqu'à mon appartement. » Très heureux de ce service qu'il trouve ponctuel et sécurisant, Stéphane n'a pas trouvé l'équivalent ailleurs en France à un moment où il cherchait à déménager. Il est donc resté à Montpellier, une ville très accessible grâce au GIHP et au tramway de Montpellier Agglomération où les personnes en situation de handicap sont nombreuses à venir s'installer. Pendant le trajet, Guillaume discute souvent avec son passager. Il arrive qu'il se confie et qu'on rencontre des personnes isolées socialement en recherche de liens, explique-t-il. Nous avons été formés par un psychologue aux enjeux spécifiques au handicap. Guillaume a aussi été formé à l'éco-conduite et à la conduite adaptée, souple et sans secousse.
Guillaume est en lien radio permanent avec le centre d'appel qui reçoit les demandes de trajet et optimise les plannings des chauffeurs. Un véritable casse-tête géré par le logiciel Titus qui calcule les temps de parcours en fonction de la circulation et du temps de prise en charge selon le degré de handicap. Le retard peut être vécu comme une véritable angoisse d'abandon, explique Pascal Brousse, directeur du GIHP, très attentif à la ponctualité. Ce matin, Guillaume poursuit sa tournée avec Peter, 25 ans, qui rentre au foyer du GIHP au Millénaire. Il y a souvent recours le soir, mais se déplace aussi en tramway et en bus. « Je n'ai aucune difficulté, je manipule mieux mon fauteuil que certains valides ne manient leurs jambes », s'amuse ce jeune sportif, en fauteuil manuel, ravi du regard tolérant et des nombreux activités que lui offre Montpellier où il vit depuis 5 ans. De retour au GIHP, Guillaume, le chauffeur, fait une pause café avant de repartir pour de nouvelles courses. « Nous demandons à nos chauffeurs une grande souplesse dans les horaires », explique Pascal Brousse, à tel point qu'ils iront chercher un usager à l'aurore, bien avant le début du service à 6 heures, pour qu'il puisse partir rejoindre sa famille à Montréal pour les fêtes. Un transport 100% adapté.
Thierry Balix, président du GIHP Languedoc-Roussillon. Notre association crée des services à partir de notre vécu de personnes handicapées pour rendre la vie plus facile. Notre transport adapté est l'un des plus importants en France. Il nous est envié pour sa ponctualité et sa sécurité.
En chiffres, 900 à 1000 usagers à l'année, 100 nouveaux inscrits chaque année. 40 chauffeurs, 27 véhicules aménagés, 250 à 500 trajets par jour.
L'agglo, partenaire historique. La ville, puis l'agglomération, ont subventionné le GIHP depuis sa création en 1966. Ces deux dernières années, ce soutien financier a permis d'acheter 2 véhicules et d'embaucher 4 chauffeurs. Il permet aussi de proposer un service à un prix inférieur au coût de revient, 2,50 euros par trajet du lundi au vendredi et 3,90 euros les week-ends et jours fériés.
Et retrouvez plus d'infos sur gihplr.org.
Rubrique Figure d'agglo. Didier Cotte, le microscope, tout un art. Lauréat du prix Christel du CNRS, Didier Cotte gère 2 microscopes capables de grossir 800 000 fois, d'où il tire des images étonnantes. Il les expose également à titre personnel.
Dans le microscope, j'imagine un autre monde. Depuis près de 20 ans, Didier Cotte examine des échantillons de matière pour les chercheurs et industriels à l'Institut européen des membranes, un établissement de référence dans son domaine. Il cherche, par exemple, des défauts sur une des minuscules membranes qui servent à filtrer l'eau des stations d'épuration. Sous le microscope, cette matière lui révèle parfois de magnifiques images. Le photographe amateur d'art prend alors la relève. Les poils d'une mouche deviennent des troncs d'arbres, les pollens des fruits ou des graines, les billes de polymère des gâteaux, tout n'est qu'interprétation. Les 2 microscopes électroniques que Didier Cotte utilise vont jusqu'à 2 nanomètres, mais les images qu'il capture sont en noir et blanc. Il les colorise ensuite, suivant son inspiration. Je travaille en ce moment sur des diatomées, des microalgues qui sont un indicateur de la qualité de l'eau douce. Je les ai faites vertes. Ces images scientifiques serviront aux publications du CNRS qui l'a primé du prix Cristal l'an passé. Elles pourront aussi finir accrochées dans une de ses expositions personnelles. Il en a déjà monté une dizaine, multipliant les projets et collaborations.
Car après le travail, Didier Cotte continue à jouer avec les images de ce monde de l'infiniment petit, un monde vertigineux comme celui de l'infiniment grand déjà évoqué par Pascal au XVIIe siècle. À 53 ans, il a gardé intactes ses capacités d'émerveillement. Une série de photomontages évoquant l'espace où flotte un cosmonaute donne une idée de son monde imaginaire. Entre art et science, ses travaux sont aussi un support d'éducation à la science utilisé par les médiateurs de la Fête de la Science. Avec un musicien, il a mis au point un piano sur lequel on joue le son du sel de cuisine, de l'acier ou du plâtre, élaboré scientifiquement à partir de l'énergie des photons de l'atome. Pas besoin de tout comprendre non plus pour s'amuser avec son faux microscope, où l'on voit, à travers des lunettes 3D, des images en relief. Pour chaque exposition, j'amène une nouvelle idée, explique le scientifique, qui a aussi fait réaliser des sculptures accessibles aux non-voyants. Cet été, Didier Cotte a exposé à Jacou, où il habite, dans un lieu qu'il affectionne, la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens. L'été prochain, ce sera à Sainte-Eulalie, dans l'Aveyron, associé à des musiciens et des danseurs.
Le dossier de votre magazine Montpellier Agglo du mois de janvier 2014 a pour titre « Économie sociale et solidaire, entreprendre autrement ».
En France, un salarié sur 10 travaille dans l'économie sociale et solidaire, ESS. Elle rassemble les défenseurs et les acteurs d'une économie plus éthique, plus humaine et plus écologique. Performant économiquement, ce secteur cherche désormais à prendre plus d'ampleur. À l'origine de la création de structures et de concepts uniques en France, le territoire de l'agglomération de Montpellier est considéré par le monde de l'ESS comme un berceau en matière d'innovation sociale. Une réussite à laquelle contribue Montpellier Agglomération en soutenant activement ce secteur prometteur, plongé au cœur de cette économie à visage humain.
L'économie sociale et solidaire, un secteur en pleine croissance. Avec 2,3 millions de salariés en France, l'économie sociale et solidaire, ESS, est aujourd'hui devenue incontournable au niveau national. Dans l'agglomération de Montpellier, elle affiche un taux d'emploi bien au-dessus de la moyenne nationale. Découverte de ce champ d'activité porteur d'avenir pour l'économie.
L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui en plein essor. Entre 2000 et 2010, le nombre d'emplois a augmenté de 23% dans ce secteur, contre 7% dans l'économie classique. Rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC. Pourtant, l'ESS reste une composante de l'économie assez mal connue. Composée majoritairement d'associations, elle rassemble également des fondations, des mutuelles, des entreprises d'insertion, mais aussi des coopératives, fonctionnant de la même manière que les PME traditionnelles, tout en défendant des valeurs humaines et sociales. Leur maître mot, démocratie, redistribution et utilité sociale. Dans ces entreprises, les salariés possèdent souvent la majorité du capital. Les décisions se prennent collectivement selon le principe « une personne égale une voix » et l'humain est mis au cœur de leurs activités. Dans l'aide à domicile, le développement durable, la formation, l'agriculture ou les nouvelles technologies, l'ESS est présente dans tous les secteurs d'activité. Elle emploie des salariés aux profils divers et aux compétences variées, de l'ouvrier au cadre en passant par l'employé.
En conciliant dynamisme entrepreneurial et solidarité, l'ESS est une nouvelle façon de concevoir l'économie, explique Fatima Bellaredj, directrice de l'URSCOP LR, qui accompagne et représente les coopératives régionales. Plusieurs études montrent que c'est l'un des seuls secteurs à avoir bien résisté à la crise. Cependant, cette économie reste fragile. Elle a encore beaucoup à apprendre, mais aussi à apporter à l'économie conventionnelle. Afin de contribuer à son développement, un projet de loi a été adopté en novembre dernier par le Sénat et sera soumis au printemps à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment de faciliter et d'amplifier le financement des structures et des entreprises du secteur et de donner plus de pouvoir aux salariés. D'ici 2020, 27% des actifs travaillant dans l'ESS en France vont partir en retraite et 600 000 postes seront à pourvoir.
En employant aujourd'hui 12% des actifs, l'équivalent de 19 000 salariés, et avec plus de 2 000 établissements installés sur le territoire, l'économie sociale et solidaire est bien implantée dans l'agglomération de Montpellier. Une éclosion favorisée notamment par la mise en place ces 10 dernières années de structures innovantes telles qu'une école de formation, une couveuse d'activités et des financeurs solidaires. Un dynamisme, signe de la bonne santé du secteur que Montpellier Agglomération soutient et accompagne. Ainsi, le 13 décembre dernier, le pôle Réalis était inauguré à Parc 2000, l'un des 19 parcs d'activité de Montpellier Agglomération. Cette pépinière d'entreprise est chargée d'héberger et d'accompagner des jeunes pousses de l'économie sociale et solidaire.
Chiffre clé de l'ESS en France, 10,3% de l'emploi, 2,34 millions de salariés dont 1,9 million de salariés à temps plein, 222 900 établissements, 56,4 milliards d'euros de rémunération brute versée. Étude CNCRESS 2012.
Plus pratique, où trouver un emploi ? La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire du Languedoc-Roussillon, CRES LR, a mis en ligne une bourse de l'emploi recensant l'ensemble des postes à pourvoir dans la région. Plus de renseignements sur cresseller.org. Comment investir ? Une ou un associé d'une structure coopérative issue de l'ESS bénéficie d'une réduction de son impôt sur le revenu de 18% du capital qu'il a souscrit dans une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, au même titre que pour les PME. Où s'adresser pour créer son entreprise ? Les porteurs de projets peuvent s'adresser à l'Union régionale des SCOP LR qui, avec l'incubateur Alter Incube, encourage et facilite la création et le développement de coopératives sur le territoire. Plus de renseignements sur scop-lr.coop. Comment rencontrer d'autres entrepreneurs de l'ESS ? Les 22 et 23 mai prochains, la 5e édition de Coventis, la Convention nationale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, aura lieu au Corum. Plus de renseignements sur coventis.org.
Trois questions à Romain Slitin, cofondateur d'Odysseum, collectif d'acteurs au service du développement de l'ESS, maître de conférences à Sciences Po Paris et co-auteur de « Entrepreneuriat social, innover au service de l'intérêt général » aux éditions Vuibert. Comment expliquez-vous l'essor de l'ESS ces dernières années ?
Depuis 10 ans, l'ESS est un modèle économiquement et socialement efficace qui apporte des innovations sociales dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Sa grande force est sa capacité à réinterroger l'économie et montrer que l'on peut entreprendre autrement. C'est-à-dire qu'il est possible, même dans le contexte actuel, de créer des emplois, faire de la croissance et même relocaliser des emplois.
Pourquoi les entreprises de l'ESS ont-elles mieux résisté à la crise économique ?
Elles sont gérées durablement et n'ont pas les mêmes exigences de rendement que les entreprises classiques. Les entrepreneurs de l'ESS réinvestissent également davantage leurs bénéfices pour développer leur activité, si bien que les défaillances d'entreprises sont rares. En plus d'accorder une place plus importante à l'humain, cette économie participe aussi au développement des territoires en investissant des secteurs peu exploités mais porteurs d'innovation.
Constitue-t-elle l'économie de demain ?
Oui, l'ESS est l'avenir de l'économie. Dans les 20 prochaines années, elle est vouée à prendre plus d'ampleur, comme en témoigne le nombre croissant de personnes qui s'y intéressent. Elle a vocation à proposer des solutions plus efficaces à l'économie conventionnelle dans de nombreux domaines.
Des entreprises à capital humain. Le secteur de l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui 10% du PIB français, grâce principalement à l'activité de ses coopératives. Un poids conséquent pour ces structures proposant des activités innovantes et d'utilité sociale dans de multiples domaines. Tour d'horizon de ces entreprises à capital humain implantées dans l'agglomération de Montpellier.
Adulacte Projet, 33% des bénéfices reversés aux salariés. L'entreprise, qui a été hébergée dans la pépinière Cap Oméga de Montpellier Agglomération, est exemplaire dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Ses salariés associés se partagent tous les ans 33% des bénéfices, soit l'équivalent d'un salaire et demi en moyenne, précise Pascal Fedel, président-directeur général d'Adulacte Projet. Depuis sa création en 2006, cette coopérative spécialisée dans le développement de logiciels libres, sans licence, pour 1500 clients en France, est passée de 3 à 22 salariés. Nos deux produits phares, un parapheur électronique et un système d'archivage électronique, équipent la moitié des régions et des départements en France, ainsi que 15 des 20 plus grandes villes, précise Pascal Fedel. Un succès qui s'explique par le besoin croissant des collectivités de dématérialiser leurs procédures administratives. Plus de renseignements sur adulacte-projet.coop.
Passerelle 34, de l'insertion professionnelle grâce à l'activité coopérative. Cet établissement propose des formations dans la mécanique, la menuiserie, le bâtiment ou la linguistique à des personnes sans diplôme ou possédant un faible niveau de qualification. Dans cette société coopérative de production, SCOP, les salariés associés possèdent la majorité des parts dans le capital. Une manière de les impliquer davantage dans le projet, assure Christian Camilleri, directeur de Passerelle 34, puisqu'une partie des bénéfices leur est reversée. Une autre part va également à tous les salariés, qu'ils soient associés ou non, et le reste est réinvesti dans l'activité. Les 48 coopérateurs que compte la SCOP Passerelle 34 sont donc pleinement associés à la prise de décision au sein de la structure qui a formé cette année plus de 2000 stagiaires. Et plus de renseignements sur passerelle-formation.fr.
Enercop LR, un fournisseur d'électricité branché sur le vert. Depuis la libéralisation du marché de l'approvisionnement en électricité en 2004, de nouveaux acteurs ont émergé. C'est le cas d'Enercoop Languedoc-Roussillon, une coopérative branchée sur le réseau depuis 2012, qui propose un service novateur en matière d'énergie, déjà expérimenté auparavant à Lille et Grenoble. L'entreprise montpelliéraine achète l'électricité auprès d'une quinzaine de producteurs installés dans la région et la revend ensuite à un millier d'usagers régionaux. Notre électricité 100% verte est fabriquée uniquement à partir d'installations éoliennes, hydrauliques et photovoltaïques, précise Simon Cossu, directeur général d'Enercoop LR. Comme dans toute société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, une partie de ses clients possède des parts au capital, au même titre que les salariés et les producteurs, et pèse donc sur la prise de décision, notamment au moment de fixer le montant des tarifs. Ambitieux, Enercoop LR a pour objectif d'approvisionner 10 000 clients sur la région d'ici 2020. Plus de renseignements sur enercoop-languedoc.fr.
Cleaning Bio 34, plus de relations humaines sans négliger la qualité de service. Les 26 salariés de Cleaning Bio 34 interviennent chaque jour aux quatre coins de l'agglomération dans des commerces, des immeubles de bureaux, des laboratoires et des centres de loisirs. Cette coopérative, créée en 2012 par le générateur d'entreprise Réplique, est spécialisée dans le nettoyage professionnel. Son leitmotiv, introduire plus de relations humaines dans l'entreprise sans négliger la qualité de service. Lorsque c'est possible, nous nous adaptons aux besoins de nos salariés, veiller à ne pas les affecter sur une mission à l'opposé de leur domicile et organiser leurs horaires de travail en fonction de leurs contraintes de garde d'enfants par exemple, indique Laurent Rodriguez, directeur général de Cleaning Bio 34. Très attaché à la protection de l'environnement, la coopérative met à disposition de ses employés des véhicules électriques et utilise uniquement des produits d'entretien écologique non nocifs pour la santé. Cependant, comme n'importe quelle PME, nous avons des objectifs commerciaux et financiers à atteindre tous les ans, précise Laurent Rodriguez. En 2014, après un an d'exercice, 19 de ses salariés actuellement en CDI pourront potentiellement rentrer dans son capital en achetant des parts. Ils bénéficieront ainsi chaque mois d'un intéressement sur leur salaire en fonction des résultats. Plus de renseignements sur cleaning-bio34.fr.
Réplique construit les entreprises dont le territoire a besoin. Cette coopérative, installée depuis 2005 à Montpellier, est un modèle unique en France. Elle crée des entreprises ou duplique des activités existant déjà ailleurs pour répondre aux besoins des habitants du territoire de l'agglomération. Réplique a déjà donné naissance à 9 entreprises d'utilité sociale et environnementale. Parmi elles, la table de Cana, restauration, la feuille d'érable, collecte de papier, Cleaning Bio 34, nettoyage, ou Mobile Eco, transports électriques, qui emploie aujourd'hui 90 personnes, dont 35 en insertion et génère un chiffre d'affaires annuel de 3,6 millions d'euros. Afin d'encourager l'action de Réplique, Montpellier Agglomération est actionnaire de la coopérative, aux côtés d'autres collectivités et partenaires privés. Plus de renseignements sur réplique.fr.
Le saviez-vous ? Les salariés d'une entreprise en difficulté, en raison du départ imminent du dirigeant ou parce que les actionnaires souhaitent se retirer, peuvent sauver leurs emplois en reprenant de manière collective l'activité dans le cadre d'une coopérative. Les employés rachètent ainsi le capital de la société, redémarrent l'activité et deviennent co-entrepreneurs. Un projet de reprise d'entreprise de ce type requiert un accompagnement proposé notamment par l'Union régionale SCOP du Languedoc-Roussillon. Renseignements sur http://scop-lr.coop.
La suite de votre dossier Entreprendre autrement, accompagnement, une aglo pionnière.
Montpellier Agglomération soutient de nombreuses initiatives dédiées à l'économie sociale et solidaire. Ces outils de formation, d'aide au financement et à la création reconnus pour leur efficacité dynamisent ce secteur en plein essor. Gros plan sur ces structures qui font de l'agglomération un territoire prisé par les acteurs de l'ESS.
Formation Coeptis, première école de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de la première force de formation en France, dédiée exclusivement à l'économie sociale et solidaire, explique d'emblée Olivier Rive, directeur général de Coeptis. Cette école, créée en 2012, a pour vocation de former les cadres et les dirigeants de l'ESS. bon nombre de nos élèves sont issus du monde associatif. Ce sont en majorité des volontaires et des autodidactes très motivés, mais ils ne sont pas forcément bien outillés pour le management. Le rôle de Coeptis est de consolider leurs connaissances et leur faire prendre conscience des spécificités de cette économie, précise-t-il. Pour cela, les élèves suivent le DESS, cycle de perfectionnement des dirigeants d'entreprise de l'économie sociale. Une formation continue de 18 mois, équivalente à un Master 2, mobilisant les participants seulement 4 jours par mois, leur permettant ainsi de poursuivre leur activité en parallèle. Mon passage par Coeptis m'a d'abord permis de faire un bilan entrepreneurial après 10 ans d'activité, au cours desquels nous sommes passés de 2 salariés et une résidence en gestion à plus de 50 salariés et 6 résidences, explique Dominique Simon, directrice générale de l'association Habitat Jeune. Il était donc temps de prendre du recul et d'apporter des améliorations à notre organisation. À Clermont-Ferrand, puis à Besançon et à Bayonne, la structure montpelliéraine a exporté son modèle aux quatre coins de la France l'an dernier. Le secteur de l'ESS est en pleine croissance. Il y a une forte demande de formation de la part des dirigeants des structures coopératives au niveau national, insiste Olivier Rive. Coeptis entend d'ailleurs ouvrir de nouvelles promotions cette année du côté de Lyon, Marseille, la Corse et l'île de la Réunion. Plus de renseignements sur coeptis.coop. Le saviez-vous ? À l'université, on se forme aussi à l'ESS. L'université Montpellier 3 propose un Master 2 Gouvernance et Administration des Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire, GAO-ESS. Grâce à ce cursus, les étudiants d'aujourd'hui, futurs cadres, dirigeants ou consultants, seront capables de gérer et d'accompagner efficacement le développement d'associations, de coopératives et de mutuelles. Plus de renseignements sur univ-momp3.fr.
Création. Créalead accompagne les entrepreneurs individuels. En Languedoc-Roussillon, 95% des entreprises créées sont des structures individuelles, explique Frédéric Sanchez, gérant de Créalead. Pour éviter le risque d'isolement et gérer leur affaire plus facilement, nous proposons à ces dirigeants d'entreprendre autrement dans un cadre coopératif. Créalead est une coopérative d'activités d'entrepreneurs qui se pose comme une alternative à l'entreprise individuelle. Ici, pas d'hébergement physique, mais les entrepreneurs de la coopérative bénéficie de services mutualisés et de l'expertise d'une dizaine de conseillers. En assurant par exemple la gestion comptable, Créalead leur permet de se concentrer pleinement sur leur activité, précise Frédéric Sanchez. Charpentier, électricien, carreleur, artisan, communicant ou expert dans les nouvelles technologies, la coopérative accompagne aujourd'hui environ 130 entrepreneurs, dont certains appartenant à TerraCopa. Avant d'intégrer pleinement Créalead, les chefs d'entreprise passe une phase de test d'une durée de 15 mois en moyenne afin d'expérimenter leur projet. 40% se concluent positivement. Ils deviennent alors officiellement co-entrepreneurs au sein de Créalead et peuvent également devenir sociétaires de la coopérative, détaille Frédéric Sanchez. La durée d'accompagnement est illimitée dans le temps, mais un co-entrepreneur doit quitter Créalead dès lors qu'il souhaite recruter un salarié pour développer son activité. Plus de renseignements sur créalead.com. Et aussi, TerraCopa est une coopérative d'activités spécialisée dans l'agriculture biologique et les métiers de l'environnement, située sur une partie du domaine de Viviers, mise à disposition par Montpellier Agglomération. Une véritable pépinière à ciel ouvert de 10 hectares, où notamment une dizaine d'agriculteurs peuvent lancer leur projet de culture innovante sans s'endetter. Chaque producteur dispose d'une parcelle de terre, profite du matériel mutualisé et d'un accompagnement individuel pendant 3 ans. Renseignements sur terracopa.net.
Financement. L'ERDI, principal financeur solidaire dans l'agglomération. La création de l'ERDI en 1994 est partie d'un constat partagé par tous les acteurs de l'ESS, la difficulté à trouver des financements pour lancer leur activité ou se développer. Les banques sont souvent réticentes à s'engager, constate Laetitia Léonard, directrice de l'ERDI. Nous facilitons l'accès à des financements et à des garanties d'emprunt grâce à nos partenariats avec les réseaux bancaires et les collectivités. Les plans de financement sont fabriqués sur mesure par les chargés de mission de l'ERDI. Cet établissement nous a permis de débloquer un prêt de 60 000 euros et une garantie d'emprunt. Son aide a été décisive dans le lancement de notre projet, assure Antoine Souave, gérant de la boulangerie coopérative Drôle de Pain. Plus de renseignements sur erdi.org.
Rubrique « Les enfants de l'agglo ». Les enfants mettent la main à la pâte. Sous forme d'ateliers de quelques heures, de stages ou à l'occasion d'un anniversaire, différentes formules transformeront, à partir de 6 ans, vos petits gloutons en véritables marmitons.
Récréatifs, mais aussi pédagogiques, les ateliers de cuisine donnent aux enfants l'envie de goûter et les aident à entretenir une bonne relation avec l'alimentation. École de la curiosité et de la créativité, ces ateliers culinaires permettent d'aborder de nombreux sujets et valeurs comme la nutrition, la sécurité, l'organisation, le partage. Ce qui m'intéresse chez les enfants, c'est leur spontanéité. Ne se limitant à aucune règle, ils nous réservent de très belles surprises dans leur création, explique Patrick Pledvouette, chef de In the Kitchen 34, plus de renseignements sur inthekitchen34.com, un atelier de cuisine qu'il a créé il y a un an. Au MUC Vacances, plus de renseignements sur muc-vacances-au-pluriel.com, des stages saveurs et sport menés pendant les vacances par le chef Johan Koa concilient les activités gastronomiques et physiques.
Les jeunes accros du chocolat participeront quant à eux aux ateliers gourmands proposés par Jeanne et Karine de Mademoiselle et Chocolat. Renseignements sur mademoiselle-et-chocolat.fr. Spécialisée dans les cupcakes, une petite fée dans la cuisine, unepetitefeedanslacuisine.blogspot.fr a créé, toujours pour les gourmands, des ateliers à quatre mains, parents-enfants, pour réaliser ces petits gâteaux d'origine anglo-saxonne. Les parents sont aussi conviés aux ateliers organisés par Cookshop, une nouvelle boutique pour Cuisiner comme un chef, ouverte en septembre dernier par Mickaël Raman près du rond-point du Grand M. Pour partager ses plaisirs gastronomiques entre copains et faire la fête, les ateliers d'Arthur, lesateliersd'Arthur.com, organisent l'anniversaire des enfants de 2 à 14 ans, tout comme le chef cuisinier Armand, école de cuisine d'Armand.com ou Pierre-Louis Marsac de la cuisine de Pilou à domicile. Quel plus beau cadeau de souffler ses bougies d'anniversaire sur un gâteau préparé avec ses copains.
Et retrouvez toutes les adresses d'ateliers de cuisine pour enfants dans la rubrique Mon Aglomag sur montpellier-aglo.com.
Rendez-vous. Nouveau, un magazine pour enfants. Comment occuper ses enfants au restaurant quand on fait du shopping ou dans une salle d'attente? Barbara Glatz a trouvé la solution en créant Nine, un magazine saisonnier rédigé en partie par les enfants. Interview, shopping, voyage, recettes, santé, environnement, jeux, ce premier numéro regorge d'informations qui combleront les jeunes lecteurs. Gratuit, renseignements par téléphone au 04 67 52 67 64.
Vendredi 10 janvier, Conte del País Doc. Des contes traditionnels, des histoires collectées, des anecdotes croustillantes, Yves Durand mêle amoureusement l'occitan au français tout en restant compréhensible de tous dès 5 ans. Castelnau-le-Lez, médiathèque d'agglomération Aimé Césaire à 19h. Renseignements par téléphone au 04 67 02 78 85.
Rubrique L'aglo c'est nous. Clapier, musique, le récital de Jeff Martin. Le pianiste montpelliérain Jeff Martin donne dimanche 19 janvier, salle Deuzeuse à 17h, un récital classique, au programme des œuvres de Chopin, Debussy, Beethoven et Gershwin. Entrée libre, renseignements par téléphone au 04 67 55 90 70. Et aussi, théâtre et magie, samedi 11 janvier à 18h, salle Deuzeuse avec l'apprenti sorcier. Gratuit pour les moins de 12 ans, renseignements par téléphone au 04 67 55 90 70.
Montferrier-sur-Lèze, théâtre des comédies en série. Samedi 18 janvier, les Kiwani de Montpellier accueillent la compagnie du théâtre solaire pour la comédie dramatique Très chère Mathilde d'Israël Horowitz. À 20h30, au 2 Vézou, tarif 10 euros. Dimanche 26 janvier, la troupe Les Rousigapotes interprète une comédie intitulée Stationnement alterné de Rekouné. 18h au 2 Vézou, entrée libre. Dimanche 2 février, l'association Pour un sourire d'enfant accueille le Strapontin pour une comédie grinçante de Jean Anouilh, Chers oiseaux. 18h au 2 Vézou, tarif 12 euros.
Le Cress. théâtre plus que des amateurs sur scène. Le 8e festival de théâtre amateur d'Ucresse, Théâtre en Garrigue, se déroule du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février, salle Le Fougeau, rue Bellevue. Les associations théâtrales cressoises vont une fois de plus se dépasser pour offrir des spectacles de grande qualité, sous l'œil avisé d'Alain Degoy, fondateur de Déclic Théâtre, association de théâtre d'improvisation de Trappe, parrain de l'événement. L'association Équitable Concert assurera les encas et la buvette. Entrée libre, renseignements sur ville-lecresse.eu. Et aussi, les 1er et 2 février, l'association L'Archer Cressois organise à la salle Marceau-Crépin un concours qualificatif pour le championnat de France.
Murviel-les-Montpellier, théâtre, art mixte, fête le Minira. Samedi 25 janvier, art mixte, fête le Minira, les mini-rencontres d'ateliers théâtre. Dès 14h30, 5 ateliers théâtre de Murviel-les-Montpellier et Pignan présenteront leur travail salle Lamouroux. À 19h, un repas soupe et tarte, 1 euro, dans une ambiance festive, assurée par le collectif Très Jeune. À 21h, la compagnie Chaviro présente une fable satirique intitulée « L'histoire du tigre ». Tout public à partir de 7 ans, tarif de 6 à 12 euros. Renseignements sur artmixte.com.
Pérols, théâtre, être ou ne pas être. Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie, jouer 10 monologues des plus grands héros de l'œuvre de Shakespeare. Cette merveilleuse aventure tourne au cauchemar. C'est l'histoire de Être ou ne pas être, un monologue écrit et interprété par Luca Franceschi de la Compagnia dell'Improvviso, vendredi 31 janvier, salle Yves Abric à 21h. Tarif de 3,5 à 7 euros. Et aussi, samedi 25 janvier, la section danse de l'école municipale de musique, danse et théâtre présente son spectacle de nouvel an, salle Yves Abric à 18h, entrée libre.
Grabels, musique, les profs du conservatoire en concert. Dimanche 12 janvier à 17h30, en l'église de Grabels, les professeurs du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Agglomération donnent un concert d'œuvres signées Georg Friedrich, Handel, Jean-Sébastien Bach, Charles Dieupart, Jean-Marie Leclerc et Michel Blavet, à la flûte traversière Claire Sala, au violoncelle Yves Potrel, au clavecin Alain Cahagne. Entrée libre.
Castries, sport, Philippe Derouet couronné. Après des années d'entraînement à Castries, des sacrifices au quotidien pour concilier vie de famille, carrière professionnelle et projet sportif, Philippe Derouet a réussi son rêve, devenir champion du monde de judo. Entraîné par Roman Carole Aftermeyer au judo castriote, ce judoka de retour sur les tatamis il y a tout juste 4 ans, a décroché le 24 novembre dernier, à Abu Dhabi, le titre suprême dans la catégorie vétéran 55-60 ans. Des moins de 66 kilos.
Castelnau-le-Lez, théâtre du grand Shakespeare. La célèbre mégère apprivoisée de Shakespeare est à voir ou à revoir le vendredi 17 janvier à 21h à l'espace Rencontre. Sur scène, la compagnie Les Têtes de Bois, tarif de 5 à 8 euros. Et aussi, vendredi 24 janvier à 21h, concert soirée dansante The Cannibal Dandies dans le cadre de Jazz in Lez à l'espace Rencontre, tarif de 5 à 8 euros.
Saint-Georges d'Orque, danse, Epsé Danse en scène. Epsé Danse, l'école de danse d'Anne-Marie Porras, présente 3 chorégraphies signées Stéphane Mirabel, Brunon Collinet et Anne-Laure Giroux, interprétées par 2 jeunes danseurs en formation. Rendez-vous samedi 1er février à 21h au Centre communal des rencontres. Entrée libre, renseignements sur epsedance.com.
Cournon Terral, musique, Haydn, Schubert, Debussy. Le quatuor Arezzo donne un concert samedi 25 janvier à 20h30 au temple de Cournon Terral. Au programme, Haydn, Mendelssohn, Schubert, Dvorak, Borodine et Debussy. Tarif 5 euros.
Villeneuve-les-Maglones, nature, les samedis des petits écolos. Envie de découvrir la nature, observer, toucher, sentir? Inscrivez votre enfant au Club Nature des Salines qui propose en ce début d'année 2 nouveaux ateliers nature pour les 6-11 ans sur ce site naturel protégé. Samedi 18 janvier de 14h à 16h30, atelier gustatif Méli-Mélo sucré-salé. Réalisez et goûtez de merveilleux mélanges autour des plantes, du sucre et du sel. Samedi 1er février de 14h à 16h30, jeux et activités manuelles, il est pas beau mon poisson? Découvrez les différents poissons peuplant les étangs au fil des saisons. Renseignements par téléphone au 04 67 13 88 57 ou sur ciel-lagune.org.
Baillargues, tradition, fête d'hiver 2014. Organisée en l'honneur de Saint-Julien, le saint patron de la ville, la fête d'hiver est une tradition qui date de la fin du 19e siècle, maintenue par la classe 95, le club taurin Le Sanglier et la municipalité. Du 3 au 12 janvier, Baillargues est à la fête avec au programme une cérémonie de remise des cocardes, un déjeuner devant les arènes offert par l'association Maintien des Traditions Baillargoises, MTB, un bal à papa, les taureaux les week-ends. Plus de renseignements sur ville-baillargues.fr.
Balade aglo, le renouveau de Castelnau-le-Lez. Né au bord du Lez, 700 ans avant Jésus-Christ, bien avant Montpellier, Castelnau-le-Lez est aujourd'hui la troisième commune de l'agglomération. Reliée par le tramway en 2006, elle a connu depuis une importante valorisation de son centre historique et un renouveau de ses quartiers.
Vue du ciel, c'est une circulade que l'on découvre à l'ouest de la commune, aux abords du Lez. Quelques vestiges des remparts du Castellum Novum se distinguent parmi ces ruelles. Immortalisée par la célèbre vue de village, qui date de 1868 du peintre montpelliérain Frédéric Bazille, ce centre historique qui domine le fleuve est surtout connu pour son église romane Saint-Jean-Baptiste. À la fin du XXe siècle, ce monument historique s'éparait d'une touche de modernité apportée par les vitraux signés François Rouen et le mobilier liturgique de Jean-Michel Villemotte. Mais ce centre ancien, qui a fait ces dernières années l'objet d'un vaste programme de valorisation, s'étend aujourd'hui bien au-delà de la circulade originelle par la rue Jules Ferry réservée aux piétons jusqu'à la place de l'Europe où revit le marché deux fois par semaine. Castelnau-le-Lez révèle ainsi tous ses attraits et des lieux de visite méconnus comme la glacière, véritable igloo construit en pierre de Castries où était conservée la neige-glace jusqu'à l'été au XVIe siècle, ou le centre régional d'histoire de la résistance Place de la Liberté, lieu de mémoire animé par les associations de déportés résistants.
Étendue sur 1148 hectares, la commune est entourée de bois, du Caïlus au nord, au Miradou au sud et bordée à l'ouest par les berges du Lez en partie aménagées pour les promeneurs et les pêcheurs. Sur ces berges, le parc Montplaisir est un lieu de détente dans la mémoire collective des Castelnauviens comme des Montpelliérains. Baignade, pêche, jeux nautiques et même joute ont longtemps été pratiqués dans ce parc, théâtre aujourd'hui de nombreux événements culturels. Depuis cet automne, un nouvel espace vert a été aménagé par la municipalité au cœur de Castelnau-le-Lez. Sur plus de 3 hectares, le grand parc La Porte, ancienne propriété privée, donne notamment accès à un bois classé, un jeu de pistes forestiers élaboré par l'Office national des forêts à partir de 7 ans et à une vaste aire de pique-nique et de jeux adaptés aux enfants de tous âges.
Et retrouvez plus d'infos sur castelnau-le-lez.fr.
Plaisir d'aglo, théâtre, imprudence au théâtre Jacques Coeur. Le théâtre de Latte s'aventure sur le terrain du théâtre contemporain avec 6 rendez-vous suivis de rencontres avec les artistes, des talents reconnus dont la plupart sont liés à Montpellier. Au programme de cette session, intitulée Imprudence, 3 pièces de théâtre. Les Damnés de la Terre, de Franz Fanon, par Jacques Allaire, membre de la Comédie Française. Lorenzatio, revue par Marion Guerrero et Frédéric Bory. Et enfin Occident, de Rémi DeVos, une comédie noire servie par 2 grands comédiens, Stéphanie Marc et Philippe Autier. On pourra aussi y voir une lecture théâtralisée de Camille Laurens en présence de l'auteur, un conte musical par la musicienne Maglone Vidal et un spectacle burlesque. Du 30 janvier au 6 février, à Latte, au théâtre Jacques Coeur, renseignements sur ville-latte.fr/théâtre.html, tarif de 10 à 28 euros, de 9 à 18 euros avec le pass aglo.
Concert Mozart au profit de la Ligue contre le cancer. L'Opéra Comédie accueille l'Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier et le Chœur Vocalis pour un concert caritatif organisé par la Ligue contre le cancer avec le soutien de Montpellier Agglomération. Pour l'occasion, l'orchestre universitaire dirigé par René Vacher a mobilisé 70 musiciens ainsi que 45 choristes bénévoles. Ils joueront Mozart, le Requiem, l'ouverture de Don Giovanni et l'adagio du concerto pour clarinette. Tous les bénéfices du concert seront reversés à la recherche contre le cancer. Jeudi 23 janvier, à Montpellier, à l'Opéra Comédie, à 20h30. Information par téléphone au 04 67 601 999, tarif de 5 à 20 euros.
Café des Lettres, Michel et Monique Pinson, sociologues des riches. Rendus célèbres par leur essai sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, le président des riches, le couple de sociologues Michel et Monique Pinson étudie depuis une vingtaine d'années la mécanique de domination en déambulant chez les plus favorisés. Dans leur nouvel ouvrage, La violence des riches, ils se mettent du côté des dominés désignés comme des assistés ou des fraudeurs. Un essai facile à lire, tremplin pour une rencontre et un débat stimulant organisé par les médiathèques de Montpellier Agglomération en partenariat avec la librairie Sauran. Rendez-vous vendredi 17 janvier à Montpellier à la médiathèque Émile Zola à 19h. Renseignements sur médiathèque.montpellier-aglo.com. Entrée libre.
Jusqu'au 12 janvier, exposition Le goût de Diderot, un large panorama de l'art français au temps des Lumières. Renseignements par téléphone au 04 67 14 83 00. Sur internet à montpellier-aglo.com/musée-fabre, tarif 8 euros, 7 euros avec le pass aglo.
Du 7 au 9 janvier, ciné-conférence L'Esprit des Lumières. Projection Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears le mardi 7 à 18h. Valmont de Milos Forman le mercredi 8 à 18h. Ciné-conférence par François Mi de la Bretèque le jeudi 9 à 18h. À Montpellier, à la médiathèque Federico Fellini. Renseignements sur médiathèque.montpellier-aglo.com ou par téléphone au 04 99 06 27 47. Entrée libre.
Jeudi 9 janvier, concert. Iri Jazz, entre le reggae et le jazz, une formation chaleureuse. Montpellier, le Jam à 21h, téléphone 04 67 58 30 30, lejam.com, entrée libre.
Samedi 11 janvier, volleyball, Montpellier-Paris pour la 6e journée de la Ligue A. Montpellier affronte le leader. À Montpellier, au Palais des Sports Pierre de Coubertin à 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 45 77 77 ou sur montpellier-volley.com. Tarif 8 euros, 4 euros avec le pass aglo gratuit pour les moins de 16 ans.
Football, MHSC AS Monaco. 20e journée de Ligue 1, Montpellier, stade de la Mosson. Téléphone 04 67 15 46 00. Un site internet mhscfoot.com. Tarif de 15 à 70 euros. 4 euros avec le pass aglo dans la limite des places disponibles en vente dans les maisons de l'agglomération.
Hockey sur glace, Montpellier-Lyon pour la 19e journée de D1 à Montpellier, à la patinoire Vegapolis. Renseignements par téléphone au 09 66 03 80 81 et sur montpellier-vipers.com. Tarif 11 euros, 3 euros de réduction avec le pass aglo.
Mardi 14 janvier, concert, Souad Massi. Star de la world music, la chanteuse algérienne est accompagnée du guitariste virtuose Eric Fernandez. Saint-Jean de Védas, chez du Terral, renseignements sur internet à chezduterral.com, tarif de 10 à 15 euros, de 8 à 10 euros avec le pass aglo.
Mercredi 15 janvier, basket féminin, LAT, Nadezhda, Russie pour la 8e journée de l'Euroleague, à LAT, au Palais des Sports à 20h, renseignements par téléphone au 04 67 91 63 50 et sur blma.fr, tarif 12 euros, 2 euros de réduction avec le pass aglo.
Du 15 au 17 janvier, théâtre, L'Attentat, d'après le roman de Yasmina Kadra. À Montpellier, au théâtre Jean Villard, à 20h, téléphone 04 67 40 41 39. Renseignements sur internet à théâtrejeanvillard.montpellier.fr, tarif de 5 à 15 euros.
Du 15 au 18 janvier, théâtre, création, Le Banquet d'Auteuil, de Jean-Marie Besset, mise en scène par Gilbert Desvaux, sexe, amour, art, Argent entre grands hommes et jeunes gens en 1670. À Montpellier, au Théâtre des 13 Vents. Renseignements par téléphone au 04 67 99 25 00 ou sur théâtre-13vents.com. Rendez-vous le 15 à 20h30, le 16 à 19h, le 17 à 20h30, le 18 à 19h. Tarif de 7 à 24 euros.
Du 15 au 19 janvier, jeune public, opération Brocoli, un voyage pour les papilles pour les 5-11 ans. À Montpellier, au théâtre La Vista à 16h, téléphone 04 67 58 90 90, un site internet théâtrelavista.free.fr, tarif 7 euros.
Vendredi 17 janvier, jeune public, L'Ogrelet. Un conte moderne autour de l'histoire d'un enfant confronté à sa différence. Dès 8 ans, au Théâtre de Villeneuve-les-Maguelones à 20h. Renseignements sur théâtredevilleneuve-les-maguelones.fr ou par téléphone au 04 67 69 58 00. Tarif de 8 à 12 euros, 1 euro de réduction avec le pass aglo.
Du 17 au 21 janvier, Opéra, Eugène Onéguin. Un opéra romantique de Tchaïkovski, direction musicale Harry Rasilainen, mise en scène Marie-Ève Signerol à Montpellier, opéra Berlioz, le 17 à 20h, le 19 à 15h, le 21 à 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 60 19 99, un site internet opéra-orchestre-montpellier.fr, tarif de 21 à 65 euros.
Samedi 18 janvier, concert Martin Koums et Africa Jazz Color, Afro Jazz, un artiste à part entière sur la scène internationale. À Montpellier, au Jam à 21h15, renseignements par téléphone au 04 67 58 30 30 ou sur lejam.com, tarif de 5 à 12 euros.
Le 18 ou le 19 janvier, rugby, Montpellier, Benetton, Trévise, Italie, H-Cup. Montpellier, stade Yves du Manoir, téléphone 04 67 47 99 71, un site internet montpellier-rugby.com.
Dimanche 19 janvier, jeune public, Pousse Caillou, spectacle visuel et musical dès 3 ans, au Théâtre de Villeneuve-les-Maguelones à 17h. Renseignements sur théâtredevilleneuve-les-maguelones.fr ou par téléphone au 04 67 69 58 00. Tarif 7 euros, 1 euro de réduction avec le pass aglo.
Foot féminin, MHSC, Soyaux, 14e journée du championnat de D1. À Sussargues, au complexe Jules Rimet, téléphone 04 67 15 46 00, un site internet mhscfoot.com, entrée libre.
Mardi 21 janvier, concert Dépêche Mode à Pérols à la Park & Suite Arena à 20h30. Renseignements sur ps-arena.com, tarif de 54 à 73 euros.
Les 21 et 22 janvier, danse. Raya Zone, entre le cirque et la danse, un spectacle d'Ali Tabet et Edith Tabet à Montpellier au théâtre Jean Villard à 20h. Téléphone 0800 600 740, un site internet montpellierdanse.com, tarif de 5 à 15 euros.
Vendredi 24 janvier, concert Kelly Live Dub à Saint-Jean-de-Védas à Victoire 2 à 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 47 91 00. Un site internet victoire2.com, tarif de 5 à 16 euros.
Samedi 25 janvier, rugby. Montpellier, Bordeaux-Bègle, 17e journée du top 14. Montpellier, stade Yves du Manoir, téléphone 04 67 47 99 71. Un site internet montpellier-rugby.com. 20% de réduction avec le pass aglo sur les abonnements en ligne.
Football, MHSC Nice pour la 22e journée de Ligue 1 à Montpellier au stade de la Mosson. Renseignements par téléphone au 04 67 15 46 00 ou sur mhscfoot.com. Tarif de 15 à 70 euros, 4 euros dans la limite des places disponibles en vente dans les maisons de l'agglomération avec le pass aglo.
Magie, Dani Larry. À Montpellier, au Zénith Sud, à 20h30. Renseignements sur montpellier-events.com, tarif de 35 à 55 euros.
Du 26 janvier au 9 février, cinéma, regard intrusif. Un panorama de films sur la thématique du voyeurisme. Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, dimanche 26 janvier à 16h à Montpellier, à la médiathèque Federico Fellini. Samedi 1er février à 15h30 à Clapiers, à la médiathèque Albert Camus. Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen, dimanche 2 février à 16h à Montpellier, à la médiathèque Federico Fellini. Body Double de Brian De Palma, samedi 8 février à 15h30 à Clapiers, à la médiathèque Albert Camus. Dans la maison de François Ozon, dimanche 9 février à 16h à Montpellier, à la médiathèque Federico Fellini. Entrée libre.
Mardi 28 janvier, danse, studio ouvert. Avec le collectif Deux Temps, Trois Mouvements qui croise les énergies de la danse hip-hop et le langage du cirque contemporain. À Montpellier, Agora Cité de la Danse à 19h, un site internet montpellierdanse.com, un numéro de téléphone le 0800 600 740, entrée libre.
Les 28 et 29 janvier, spectacle sur glace au bout de tes rêves. À Montpellier, au Zénith Sud à 20h30. Renseignements sur montpellier-events.com. Le 28 à 20h, le 29 à 14h et 17h30. Tarif de 30,5 euros à 46 euros.
Du 29 décembre au 2 janvier, jeune public, La Sorellas del Diable, théâtre français et occitan, par la compagnie La Rampe pour les 5-10 ans, Montpellier, théâtre La Vista à 16h, téléphone 04 67 58 90 90, un site internet theatrelavista.free.fr, tarif 7 euros.
Jeudi 30 janvier, concert, Rose Betty Club. Le Rose Betty Club revisite la musique des années 1920 à 1950, influencée par Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday. À Montpellier, au Jam, à 21h. Renseignements par téléphone au 04 67 58 30 30 et sur lejam.com, entrée libre.
Les 30 et 31 janvier, nouveau cirque, Linéa. Avec Kim Huyn et Jeev Fori, une jonglerie chorégraphiée pour rêver et rire. À Montpellier, au Théâtre Jean Villard, le jeudi 30 janvier à 14h30, le vendredi 31 janvier à 14h30 et 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 40 41 39, un site internet theatrejeanvillard.montpellier.fr, tarif de 5 à 15 euros.
Vendredi 31 janvier, concert, Mozart Boccherini. La jeune soprano Sabine Devielle, vue l'an passé dans l'Acmé, revient avec l'Orchestre National de Montpellier sous la direction du jeune chef Raphaël Pichon. À Montpellier, à l'Opéra Comédie à 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 60 19 99 ou sur opéra-orchestre-montpellier.fr. Tarif de 16 à 32 euros.
Concert, 10e Nuit Zébrée, live éclectique et DJ jusqu'à 1h du mat, programmé et retransmis en direct sur Radio Nova, fréquence 92.4, en partenariat avec Montpellier Agglomération, Montpellier, Zénith Sud, un site internet lesnuitszébrées.com, entrée gratuite sur invitation à retirer à la maison d'agglomération centre, à l'office du tourisme et chez Cosmic Groove une semaine avant.
Mardi 4 février, danse, Azimut. Après Taoub, succès mondial avec plus de 300 représentations, Aurélien Bory revient avec le groupe acrobatique de Tanger, des acrobates de haut vol. À Montpellier, à l'Opéra Berlioz à 20h, renseignements par téléphone au 0800 600 740 ou sur montpellierdanse.com, tarif de 25 à 35 euros.
Du 5 au 8 février, théâtre, mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, mise en scène Claudia Stavisky. À Montpellier, au Théâtre des 13 Vents, un téléphone le 04 67 99 25 00, un site internet théâtre-13vents.com, le 5 à 20h30, le 6 à 19h, le 7 à 20h30, le 8 à 19h, tarif de 7 à 24 euros.
Jeudi 6 février, concert, Fantasio et David Lafort, chanson. À Montpellier, au Théâtre Jean Villard, à 20h. Renseignements par téléphone au 04 67 40 41 39 ou sur theatrejeanvillard.montpellier.fr, tarif de 5 à 15 euros.
Date et tarif sous réserve de modification. Retrouvez plus d'infos sur montpellier-aglo.com.
Le goût de l'aglo. Péné, Thomas Téton. Comment reprendre la ligne sans se frustrer après les fêtes? Thomas Broutin, nutritionniste, blogueur, propose une recette à la fois simple, originale, nourrissante et qui ne vous fera pas prendre un gramme. Ce plat a plusieurs composantes. Des pâtes complètes, riches en fibres, favorisant le transit intestinal et en protéines, quelques légumes, du thon, très pauvre en matière grasse, et du parmesan, un fromage riche en calcium et au goût intense, explique ce spécialiste de l'alimentation en pleine préparation d'un livre de cuisine. La recette de Thomas Broutin de Montpellier à retrouver sur thomasbroutin.wordpress.com. Péné, Thomas Téton. Ingrédients par personne, 100 g de péné complète, une boîte de thon moyenne au naturel, une tomate, un oignon, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate, parmesan, basilic déshydraté, sel et poivre. Portez à ébullition une casserole d'eau, salée. Pendant ce temps, coupez la tomate et l'oignon en dés, plongez les pâtes dans l'eau, faire dorer les dés d'oignon dans une poêle. Une fois translucides, ajoutez les dés de tomate, incorporez le basilic puis le concentré de tomate dilué à 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Ajoutez le thon après l'avoir vidé de son eau, salé et poivré, réservé. Égouttez les pâtes, les présentez dans une assiette légèrement creuse en ajoutant le parmesan en fin de présentation.
Petit conseil d'expert de Johan Diventa, coach sportif, à retrouver sur facebook.com/méthodediventa et sur facebook.com/coaching.form. C'est une excellente idée pour le déjeuner. La protéine du thon entretiendra votre masse musculaire, les sucres lents des pâtes fourniront un apport d'énergie plusieurs heures après le repas. Pour éliminer après les fêtes, programmez-vous 2 heures après ce plat une petite séance sportive. Privilégiez les séances cardio douces, marche rapide, footing très léger, vélo, appareil cardio d'intérieur. Votre rythme cardiaque doit s'accélérer, votre température corporelle augmente, mais vous devez être capable de parler sans vous essouffler. La durée optimale pour une séance cardio se situe entre 40 et 60 minutes.
Faites-nous découvrir vos recettes de saison par messagerie Facebook ou en l'envoyant à recette@montpellier-aglo.com. La recette sélectionnée sera présentée dans cette rubrique, accompagnée de la photo de votre plat prise par Montpellier Agglomération.